Alors, mes chers amis, bonjour. Et je pense que c'est sous ce thème, ne crains pas, que nous allons aborder aujourd'hui un sujet particulièrement délicat, mais très important, intitulé « Les fourberies du malin ». Comment les découvrir et comment les éviter. Vous savez que, personnellement, j'avais décidé de ne jamais consacrer le moindre temps à parler du malin. J'avais l'impression que c'était lui faire honneur. Mais quand je le vois au cours des années nous tendre ses pièges, et je dirais qu'il est rendu là dans la catégorie des pièges de luxe, et que je vois beaucoup d'entre nous en Église se faire prendre, succomber, se faire blesser, et parfois gravement, eh bien, je sens monter dans mon cœur, et particulièrement depuis quelques mois, le besoin, le goût, le devoir de partager avec vous sur ce thème. Et j'espère que de ce partage sortira une lumière encore plus nette sur la connaissance de ces stratégies. Le plan de l'exposé, c'est très simple. Il y aura trois parties. Dans la première partie, j'aborderai six considérations générales. Une deuxième partie, une douzaine, ou plus précisément 13, donc 13 à la douzaine, de ces fourberies les plus courantes. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, je partagerai avec vous quelques conseils d'amis, nous suggérant comment il est bon de toujours lui faire face. Alors, mettons-nous à l'œuvre, si vous le voulez bien, et passons immédiatement à cette première partie. Et ici, je veux lancer six questions directes. La première, existe-t-il le malin? Qui est-il au juste? Que fait-il? Comment agit-il? Qui vise-t-il tout particulièrement et comment réussit-il à semer la confusion dans nos rangs? Première question. Existe-t-il? Pour moi, je n'ai aucun doute. Malgré toutes les rumeurs et les opinions contraires qui circulent en Église actuellement, et qui sont une de ces ruses, je suis convaincu à l'emporte-pièce de l'existence du diable, de Satan, du prince des ténèbres. Comme je ne veux pas m'arrêter trop longuement sur ce point, je vais juste évoquer quatre preuves à l'appui. La première, on la retrouve dès le début de la Genèse, ce premier livre de la Bible. Dès le chapitre 3, il apparaît et il commence ses ravages. Et c'est le récit de la tentation d'Adam et d'Ève. Et on voit très bien qu'il y a un agent différent de Dieu qui vient solliciter l'opinion d'Adam et d'Ève. Dieu leur demande quelque chose. Et sous la forme d'un serpent, un autre agent arrive et leur dit le contraire. Et ensuite, ça continue. Chapitre 4, c'est, il met en conflit Caïn et Abel. On est déjà rendu au chapitre 6, c'est la question du déluge, où le peuple est déjà en train de se désagréger, de se révolter contre Dieu. Et alors, ça continue à travers toute l'histoire sainte. Il ne manque pas les occasions de faire parler de lui. Une deuxième preuve, c'est quand apparaît le nouvel Adam, Jésus, Jésus vient sur terre pour nous racheter, et immédiatement, le diable et Satan se mettent à l'œuvre. Et c'est carrément rapporté dans le Nouveau Testament. Ils s'attaquent directement à Jésus dans les trois tentations au désert, mais ils s'attaquent indirectement tout au long de sa vie publique, à travers ses satellites ou ses acolytes, si vous voulez. Et on voit Jésus l'identifier comme étant le diable, le démasquer, le combattre, lui casser les reins et lui ordonner de déguerpir. Troisième preuve, Vatican II, le concile récent. Évidemment, certains ont laissé entendre que depuis Vatican II, ben c'est pas si sûr que ça, l'affaire du diable et puis de Satan, que Vatican II n'en a pas parlé. C'est faux. À 6 occasions dans les documents conciliaires, on parle du et des démons, explicitement. 11 fois du mal, suite des ravages du démon. Évidemment, il faut penser que le Concile Vatican II n'avait pas comme thème majeur le ciel ou l'enfer ou le péché ou le mal. Il voulait centrer ses efforts sur un ajournement, un aggiornamento de l'Église et sa plus grande présence et incarnation dans le monde. Un concile ne fait pas une révision complète chaque fois de toute la doctrine de l'Église. Alors, c'est tout à fait normal qu'on n'en ait pas parlé dans des pages et des pages, parce que ça ne pose pas un problème à l'Église à ce moment-là. L'Église avait beaucoup parlé du diable et des péchés. Mais de là, aller conclure que parce que Vatican II ne parlait moins que c'est plus important, c'est une ruse, une fourberie du malin qui a rentré ça dans le coco de beaucoup d'entre nous, malheureusement même d'ecclésiastiques. Parce qu'à ce point de vue-là, je pourrais aussi bien dire qu'il ne faut pas croire au ciel, parce que dans les documents de Vatican II, il n'est question que 3 fois du ciel. 3 petits paragraphes de rien. Et on n'est pas encore rendu à mettre ça en doute. Peut-être que la ruse du démon va nous y conduire. Prenez, je vous cite ici 3 textes du Concile Vatican II. Le premier, « Dieu envoya son Fils dans notre chair afin d'arracher par lui les hommes à l'empire des ténèbres et de Satan et de se réconcilier en lui le monde » dans le document sur les missions. L'activité missionnaire délivre l'homme des contacts mauvais et le rend au Christ son auteur, qui détruit l'empire du diable et arrête la malice infiniment diverse des crimes. Autre extrait du document sur les missions. Bien souvent, malheureusement, les hommes, trompés par le démon, se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont délaissé le vrai Dieu pour des êtres de mensonges, servit la créature au lieu du Créateur. Alors, on voit bien que dans Vatican II, la question du diable et du démon n'a pas été omise et encore moins rejetée ou mise définitivement de côté. Et enfin, j'évoque une quatrième preuve. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, il nous est raconté le fameux combat de l'archange Michel et de ses anges contre le dragon, qui nous est annoncé comme devant arriver. Est-ce que Dieu se serait donné la peine de nous annoncer ce combat si le diable n'existait pas? Et le résultat du fameux combat nous est déjà annoncé, nous est déjà connu au verset 9, et je lis. Il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Donc vous voyez que Il est question de lui d'un bout à l'autre de la ligne, à partir du premier livre de la Bible, la Genèse, jusque dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors ici, je ne développe pas davantage ce point, mais j'en profite sur cette première question pour inviter mes frères et sœurs dans le Christ, ou mes confrères ou consœurs en religion, qui par malheur se sont fait avoir et laver le cerveau par lui, le diable, au point de ne plus croire à son existence ou à son activité réelle, au point d'en douter sérieusement. Je vous invite, mes frères et sœurs, à reconsidérer votre option. Et je prie le Seigneur tous les jours de vous faire recouvrer la vue, j'oserais dire, de votre vivant autant que possible. Et quand je dis la vue, je parle autant de la vue physique, naturelle et humaine, que de la vue spirituelle, c'est-à-dire dans la foi. Bien entendu, avec les yeux de la foi, si cette foi est bien entretenue et de plus en plus perçante, avec l'aide de sa grâce, on finit par n'avoir aucun doute. Aucun. Quant à l'existence du malin ou quant à ses fourberies, ses tentations. Et on comprend très bien pourquoi Jésus est venu et comment il a dû et réussi à le vaincre et à l'écraser. Mais j'irai même plus loin, mes chers amis. Ouvrons-nous les yeux même seulement physiques. On ne peut pas nier que les choses vont mal dans le monde. Il n'y a pas un téléjournal, il n'y a pas un journal qui ne nous assaille pas avec toutes sortes de conflits, toutes sortes de problèmes, les plus monstrueux les uns que les autres, les plus inédits. On est toujours à découvrir des nouvelles malices, des nouveaux types de terrorisme et tout cela. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que c'est simplement le hasard? Allons donc. Depuis quand le hasard est-il intelligent? Est-il concerté? A-t-il la possibilité de persuader, d'orchestrer, de réussir systématiquement? Quelqu'un connaît-il le hasard comme étant un être intelligent? Or, on ne peut pas ne pas voir que le monde est sous la menace d'une orchestration et d'une aggravation, je dirais d'une systématisation, d'une promotion du mal. Et alors, si c'était l'effet du hasard et que le hasard devient intelligent et devient maître d'œuvre, il cesse d'être le hasard. C'est plus du hasard. Est-ce que ça serait explicable parce que vous, puis moi, puis les autres, on est devenus si méchants que ça? Est-ce qu'on est naturellement des méchants comme ça? Portés à toujours faire ces crimes que l'on voit? Voyons donc. Est-ce alors une force du mal, une puissance du mal? J'aurais le goût de dire, oui, d'accord. Alors, qui la dirige? Qui l'inspire? Une force ne demeure qu'une force que si elle a un leader, que si elle a une ligne de conduite. Alors, qu'on le veuille ou non, il faut remonter à l'existence d'agents maléfiques et d'un agent en chef. C'est trop constant, c'est trop évident et délibéré. Or, qu'est-ce que je dois faire pour identifier ce chef de file? Ben, on peut faire des recherches. Je me suis contenté d'une. Je me suis fié au Seigneur Jésus. Lui, il est bien placé. Il a des sources sûres d'informations. Et c'est lui qui me l'a identifié, qui nous l'a identifié. Il est venu sur terre, puis il s'est attaqué à Satan. Il l'a identifié comme tel, il l'a démasqué, dénoncé, combattu et vaincu. Et on en a la preuve dans le Nouveau Testament. 33 fois dans le Nouveau Testament, le nom de Satan est mentionné. 33 fois dans le Nouveau Testament, le nom du diable est mentionné. Et 70 fois au moins, le nom des démons. Donc 136 fois dans les évangiles et les épîtres, on parle du diable comme tel. Alors, qui peut sincèrement, véritablement, douter de son existence? C'est évident, je pourrais ici ajouter une parenthèse, que quand on doute de lui, on peut peut-être être facilement conduit à douter de l'enfer. Il y en a qui aujourd'hui disent que l'enfer n'existe pas. Ben, moi, j'ai une petite question à leur poser à ces gens-là. Quand on meurt, puisqu'on a été créé libre, qu'arrive-t-il ou qu'arrivera-t-il de celui ou de celle qui, exerçant précisément sa liberté, au moment du jugement particulier après sa mort, décide de ne vouloir rien savoir de l'amour de Dieu et décide librement, pour 36 raisons, parce qu'il est aveuglé, parce qu'il est encore orgueilleux, parce qu'il veut faire à sa tête, décide de décliner l'offre d'entrer au paradis. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Dieu va dire, je suspends ta liberté, puis veux pas, tu dois m'aimer, puis viens-t'en au paradis? Sa justice t'oblige à respecter la liberté et l'option de la personne qui ne veut pas vivre dans la présence divine pour le reste de l'éternité, ne veut pas entrer au paradis. Alors, le simple bon sens nous dit qu'il a fallu prévoir un autre endroit pour ces gens-là. Et cet endroit-là qu'on a prévu, si on ne veut pas l'appeler enfer, on doit quand même reconnaître que ça va être une vie infernale, parce que ces gens-là, ayant connu l'option, l'existence de l'amour divin, la possibilité d'entrer au paradis, et l'ayant refusé, se trouvent dans un état de vie où ils ont connu et ils ne possèdent pas, où ils ont vu qu'ils auraient pu avoir et ont refusé, et vont passer l'éternité à voir ce qui leur manque de par leur vie. On ne peut pas appeler ça une vie infernale. D'autant plus qu'à ce moment-là, va se réveiller dans tout leur être ce qui a été inscrit à leur naissance, cette faim et soif d'aimer et d'être aimé, puis vont en être privés plutôt, pour l'éternité. Va se réveiller en eux ce que le sacrement de baptême a marqué en fait d'aspiration, de trouver son Dieu, trinitaire, et ils vont en être sevrés. Alors, ça va être une vie infernale, et ça va être une douleur extraordinaire pour ces gens-là. Alors, vous savez, on n'a pas besoin de se casser la tête. Le diable, il est là, et justement, dans le journal Le Devoir d'hier matin, dans la première page, sous le titre « Le silencieux », il y avait trois réflexions et je vous les lis. La première, c'était ceci. Le diable n'a jamais eu besoin de s'incarner parce que les exemplaires à son image n'ont jamais manqué d'avoir peau d'homme. Et l'autre, qui peut s'appliquer à ce que je viens de dire, l'un des mots les plus cruels de notre temps, c'est l'expression « ce n'est pas mon problème ». C'est de l'indifférence dans ce qu'elle a de plus large. Et alors, vouloir ignorer l'existence du diable en disant « c'est pas mon problème », c'est se faire mal délibérément. Demandons-nous maintenant, deuxième question, qui est-il? Eh bien, on l'entend mentionner sous deux noms. Et dans le Nouveau Testament, à peu près d'égale fréquence, comme je l'ai dit tantôt, le nom de Satan. Satan, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire l'adversaire. Ou sous le nom de diable, qui vient d'un mot grec qui veut dire calomniateur. Alors, Satan ou le diable, c'est un être personnel. Ce n'est pas un régiment, ce n'est pas une compagnie limitée, c'est un être personnel. Invisible par lui-même, mais réel, dont l'action se manifeste de deux façons, soit directement, soit indirectement. Et indirectement via d'autres êtres qu'on appelle des démons, ou des esprits impurs, soit à travers des tentations. Donc, les démons, ce sont des subalternes de Satan. D'où viennent-ils, Satan et ses acolytes? C'est de la catégorie qu'on appelle les anges déchus. Il faut souligner que ces anges déchus, même une fois déchus, gardent intacts tous leurs dons naturels. Ils sont encore intelligents, sont encore pleins de volonté, pleins d'initiative, mais leur intelligence, depuis qu'ils ont été déchus, est obscurcie par rapport au mystère de la grâce. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la grâce. Ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas s'imaginer que ça peut faire quelque chose de bien. Et leur intelligence est incurvée vers le fini, parce qu'eux autres, depuis qu'ils sont déchus, depuis qu'ils se sont révoltés, ils ont eu leur sentence éternelle. Ils ont été condamnés éternellement à aller en enfer. Mais ils ont eu un sursis, ils sont en libération surveillée, en liberté surveillée, jusqu'à la fin des temps. Ils sentent qu'à la fin des temps, c'est fini. Par conséquent, pour eux, il n'y a pas de vie éternelle de bonheur. Leur intelligence également, depuis qu'ils sont déchus, est dans un perpétuel face-à-face avec leur moi, me, myself and I, un moi limité, mais un moi qu'ils essayent de gonfler, qu'ils essayent de dilater le plus possible. Deuxième chose qui est arrivée après leur déchéance, c'est que leur volonté a été fixée dans la haine et le désir du mal. Parce que leur décision a consisté à s'exclure de l'ordre de l'amour de Dieu à jamais. Et alors, depuis ce temps-là, ils ne peuvent pas promouvoir l'amour de Dieu, la paix, la joie. C'est le cas de dire, il broie du noir, et pour vrai et pour toujours. Vous savez, les anges ont eu, des fois on se dit, j'aimerais mieux être un ange que d'être un humain, mais les anges ont eu des avantages puis des désavantages. C'est qu'un ange possède une intelligence tellement parfaite, tellement lucide, et ils ont un jugement que rien ne peut obscurcir, rien ne peut troubler, ne peut distraire. Et alors, au moment de prendre une décision, un ange est parfaitement bien au courant de ce qu'il doit décider. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est clair, c'est net, c'est évident, c'est ça ou c'est pas ça. Et par conséquent, un ange ne peut pas plaider après coup. « Ah, bien, je ne savais pas, on ne m'a pas dit, j'ai oublié, je n'avais pas pensé, je n'ai pas réalisé, il ne peut pas du tout s'en sortir comme ça. » Quand la vérité lui est présentée, il a toutes les capacités de saisir. Alors, quand il décide, sa fin dernière est engagée sans réserve et il ne peut pas changer d'idée. Et c'est ce qui est arrivé quand le Seigneur a proposé aux anges son plan d'amour, de rédemption. Comment il aimait tellement les humains que même s'ils allaient pécher, il viendrait les sauver par amour, il s'incarnerait. Ben, il y en a qui n'ont pas digéré ça. Et ils se sont révoltés. Et à ce moment-là, n'ayant pas vu l'amour de Dieu pour les humains, étant jaloux de ça par orgueil, ils ont été déchus. Alors que les autres anges, ben, ils ont dit, c'est Dieu qui mène. Il veut faire ça. C'est vraiment de l'amour. Ils ont humblement soumis leur intelligence et volonté à l'ordre de l'amour proposé par Dieu. Et ils ont été immédiatement admis pour l'éternité dans la vision divine. Il y a une trentaine d'années, j'avais fait déjà assez de ministère, j'ai décidé de donner au diable et à Satan un surnom. Et je l'ai baptisé Judoka le fourbe. Et ça fait 30 ans que je parle toujours, non pas du diable et de Satan, mais Judoka le fourbe. C'est parce que je me suis aperçu que sa stratégie principale, elle s'inspire du judo. Le judo, qui est cette sorte de lutte japonaise, qui consiste pour l'athlète à ne pas stopper l'élan de l'adversaire, mais au contraire, à capter son élan. Supposons que quelqu'un s'en vient puis avec un coup de poing, un poing levé, puis vient pour donner un coup de poing, au lieu de bloquer son poing, je prends son bras, puis à même son élan, je le fais passer tout droit. Donc, je le rend victime de son propre attentat contre moi. Et alors, un judoka, c'est quelqu'un qui maîtrise cette technique. Et pour moi, le malin, le diable, Satan, c'est un judoka le fourbe. Il nous prend habituellement dans nos propres élans. Et pourquoi je dis que c'est un fourbe? Eh bien, vous le savez comme moi, mais c'est peut-être bon de le mentionner rapidement, et si je peux, c'est une des rares occasions où j'ai le droit de manquer de charité chrétienne, il est passé maître en faux étiquetage et faux emballage. C'est un spécialiste dans les vitrines tronquées, dans les salles de montres trompeuses, en indication routière délibérément erronée, en conseil. C'est pas seulement un rôdeur qui tourne autour de nous, c'est un maraudeur qui vole nos fruits et nos légumes les plus chers. Et c'est pourquoi j'ai donné comme titre les fourberies du malin, en pensant un peu à ce cher Molière avec ses fourberies du Scapin. Scapin, qui est un personnage de la comédie italienne, qui a été amené dans la comédie française par Molière, est le type du valet intrigant, fripon, plein d'ingéniosité et fourbe, qui se sert des passions des gens pour les organiser d'une certaine façon. Et alors, le malin, que j'appelle judoka le fourbe, est un homme spécialisé dans la fausse